Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Hydrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré. Bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Moscou salue une position qualifiée d'équilibrée de Washington après son vote inédit à l'ONU hier, vote des États-Unis contre une résolution, notamment pour exiger le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, est à Kinshasa en RDC après l'avancée du M23 épaulé par le Rwanda dans l'Est. Aucun groupe armé, aucun allié de groupe armé n'a de chèque en blanc, dit Karim Khan. À suivre aussi les tractations en Allemagne pour former une coalition. On verra quels sont les projets des conservateurs en matière d'énergie. Et puis une pétition lancée par des parlementaires au Canada. Ils veulent retirer à Elon Musk sa nationalité canadienne. Une nouvelle alerte aérienne ce matin sur tout le territoire ukrainien en ce début de quatrième année de guerre contre la Russie et des discussions tous azimuts pour tenter de mettre fin au conflit. Mais avec quelles conditions? Emmanuel Macron en a discuté hier à Washington avec son homologue américain. Le président français a plaidé pour une paix avec des garanties pour la souveraineté ukrainienne, alors que les États-Unis ont renversé leur politique à l'égard de Kiev et de Moscou depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, comme l'a montré ce vote sans précédent à l'ONU hier. Washington a voté contre une résolution condamnant la guerre, David Thompson.
Les États-Unis et la Russie qui votent ensemble à l'ONU contre les pays européens et l'Ukraine, c'est sans précédent et cela se passe le jour même du troisième anniversaire du début de l'agression russe. À l'Assemblée des Nations Unies, les États-Unis ont d'abord voté contre une résolution des Européens appelant au retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien. Un peu plus tard, au Conseil de sécurité, les Américains ont ensuite voté avec la Russie en faveur d'une résolution qui omet de qualifier les Russes d'agresseurs et qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette résolution nous place sur la voie de la paix, assure l'ambassadrice par intérim des États-Unis à l'ONU, Dorothy Shea. Résolution adoptée à 10 voix pour et 5 abstentions, dont la France. Il n'y aura ni paix ni sécurité nulle part si les agressions sont récompensées et si la loi de la jungle l'emporte, regrette l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière. C'est un moment de vérité, un moment historique, déclare la vice-ministre des Affaires étrangères ukrainienne. Après avoir faussement affirmé que l'Ukraine avait déclenché la guerre et qualifié son président Volodymyr Zelensky de dictateur, il confirme le virage radical de la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. David Thompson, Miami RFI.
Et après ce vote à l'ONU, le Kremlin vient là de saluer la position qualifiée d'équilibrée de Washington sur la position russe dans ce dossier. Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service de presse de l'ambassade de Russie en France, était l'invité d'Arnaud Pontus ce matin. Entretien à retrouver sur RFI.fr. C'est une étape de la transition entamée en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. La conférence de dialogue national se poursuit à Damas. Le président syrien par intérim a plaidé tout à l'heure pour l'unité du pays et le monopole des armes aux mains de l'État. Ahmed Al-Shara a aussi souhaité une commission pour travailler sur la justice transitionnelle. Mais des partis kurdes qui n'ont pas été invités dénoncent une conférence qui ne reflète pas, selon eux, la réalité des composantes de la Syrie. Le procureur de la CPI en déplacement à Kinshasa, Karim Khan, est arrivé hier soir en RDC dans le contexte de l'offensive du groupe armé du M23 épaulé par le Rwanda dans l'Est. Un conflit qui a coûté la vie à plus de 7000 personnes selon la première ministre congolaise. Pourquoi cette visite de Karim Khan, Stéphanie Maupin?
Le procureur doit rencontrer les autorités congolaises, à commencer par le chef de l'État et des membres du gouvernement. Karim Khan a aussi rendez-vous avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Le procureur entend faire de la justice une partie de la solution à la crise actuelle dans l'est de la RDC. Il devrait mettre en garde les auteurs de crimes en cours dans le Nord Kivu, où le M23, milice soutenu par le Rwanda, affronte l'armée congolaise et s'est emparé d'une large partie de la province. Au début du mois, le procureur avait lancé un appel à témoins. Comme dans toutes les enquêtes, il aura besoin de la coopération des États, au premier chef celle de la RDC. Karim Khan a ouvert cette enquête sur le Nord Kivu en octobre dernier à la demande des autorités congolaises. Elle porte sur les crimes commis dans la province depuis le 1er janvier. janvier 2022. En marge de cette enquête, son bureau entend aussi soutenir la création d'un tribunal spécial en RDC. Stéphanie Mopala et RFI.
Et par ailleurs, l'armée sud-africaine a annoncé l'évacuation de certains de ses soldats blessés à Goma, au nord Kivu, sans précision sur leur nombre. Des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO, la mission de l'ONU, et la mission régionale de la SADC. On prend les mêmes et on recommence. Après le constat d'échec à Cali, en Colombie, à la COP biodiversité en novembre dernier, les négociations ont repris à Rome, en Italie, pour tenter de débloquer les points qui fâchent, et notamment la question du financement, la question de la création ou non d'un fonds dédié à la biodiversité. Les grandes manœuvres lancées en Allemagne par Friedrich Merz, le chef de file des conservateurs, le nouvel homme fort du pays après les législatives de dimanche, mais qui va devoir composer avec des alliés pour gouverner proche des milieux économiques. Friedrich Merz a promis de maintenir l'objectif inscrit dans la loi allemande d'atteindre la neutralité carbone du pays en 2045. Mais pour le moment, Stéphanie Schüller, il n'a pas proposé de stratégie claire pour y parvenir.
Fidèle à leur credo économique, Friedrich Merz et son parti, la CDU, misent sur les mécanismes de marché pour avancer dans la transition écologique. L'instrument clé, la taxation des émissions de CO2, aussi bien pour les ménages que pour l'industrie. Les conservateurs espèrent susciter ainsi un changement de comportement et promettent de soutenir en même temps financièrement les classes sociales les plus défavorisées. Cela n'empêche pas Friedrich Merz de réfléchir à prolonger la durée de vie des centrales à charbon et à construire de nouvelles centrales à gaz. Le déploiement des énergies renouvelables, qui produisent déjà 60% de l'électricité en Allemagne, devrait malgré tout se poursuivre. Dans le secteur du bâtiment, en revanche, le conservateur veut abolir les réglementations climatiques mises en place par le gouvernement sortant et il s'oppose à l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035. Christoph Balz, directeur de l'ONG environnementale German Watch, craint que
cela plonge le secteur automobile ainsi que les fabricants de pompes à chaleur dans une grande incertitude. Nous freinons nos industries d'avenir alors que le marché mondial avance.
Friedrich Merz devra de toute façon faire des concessions. Pour gouverner, il aura besoin des sociaux-démocrates dotés, eux, d'une solide politique climatique.
Les voitures hybrides neuves en tête des ventes en Europe au mois de janvier, devant les voitures thermiques, annonce ce matin de l'Association des constructeurs européens. Les ventes des modèles 100% électriques plus chers restent stables par rapport à décembre 2024, même si le pionnier Tesla a vu ses ventes divisées par deux en janvier en Europe. Et cela sur fond de prise de position radicale de son patron Elon Musk. Le conseiller du président Trump chargé des coupes budgétaires, ciblé par une pétition parlementaire au Canada pour lui retirer sa nationalité canadienne. Cette initiative a récolté à cette heure plus de 23 000 signatures. Elle devrait être présentée très prochainement à la Chambre des communes.
C'est le député néo-démocrate Charlie Angus qui l'a lancé jeudi dernier à l'initiative de l'auteur de science-fiction canadien Kyle Reed. Cette pétition accuse Elon Musk d'agir contre les intérêts du Canada. En cause, son alignement avec le président américain Donald Trump. Les signataires demandent donc au premier ministre Justin Trudeau de retirer à Elon Musk son passeport canadien et de révoquer sa citoyenneté. Car si l'homme le plus riche du monde est né en Afrique du Sud, il possède aussi, grâce à sa mère, la nationalité canadienne. Donald Trump, lui, a provoqué la colère des Canadiens en menaçant d'imposer de lourdes taxes sur les produits venus du Canada et en suggérant ouvertement une annexion du pays. Pour être présenté aux parlementaires, une pétition doit recueillir au moins 500 signatures, un cap déjà largement franchi. Mais son examen pourrait être perturbé par l'organisation d'élections générales avant la reprise des travaux parlementaires prévus fin mars. La décision finale appartient au Premier ministre Justin Trudeau.
En France, c'est une étape importante aujourd'hui dans le procès de Joël Le Squarnec, cet ancien chirurgien accusé de violences sexuelles par près de 300 patients, essentiellement des enfants à l'époque des faits. Plusieurs membres de sa famille sont attendus à la barre ce mardi au deuxième jour du procès. Ses trois enfants et surtout son ex-femme, que savait-elle des crimes de son mari ? Joël Le Squarnec lui a reconnu hier avoir commis des actes odieux. 11h10 ici à Paris. On retrouve Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins. Au programme aujourd'hui, je ne vous le souhaite pas. Comment travailler avec des collègues boulets, conseils et recommandations pour faire avec.